Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. Chaque jour, vous avez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Aujourd'hui, mercredi, nous attendons vos réactions à l'ultimatum de la CEDEAO au Mali. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont donné 8 jours à la junte au pouvoir pour nommer un président et un premier ministre issus de la société civile pour gérer la transition. Le comité national pour le salut du peuple, de son côté, continue ses consultations. Les concertations devraient reprendre jeudi pour une durée de 3 jours. Et hier, plusieurs centaines de Bamakois ont manifesté pour exprimer leur soutien aux militaires. Alors que pensez-vous de cet ultimatum de la CEDEAO? Vous paraît-il réaliste? Que doit répondre, selon vous, le comité national pour le salut du peuple? Pour nous faire part de vos analyses et commentaires, composez le 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp, le numéro WhatsApp du studio d'Africa Radio, c'est le 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec quelques-uns de vos messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour. Bonjour les auditeurs d'Africa Radio. Africa Radio. Merci. Et alors, donc, s'agissant de la participation de M. Cyril Dalin aux élections présidentielles guinéennes du 18 octobre cette année, j'ai écouté l'émission aujourd'hui, j'ai même participé. Tout d'abord, je remercie tous les compatriotes africains. Quand je dis compatriotes africains, je pense qu'aujourd'hui, le panafricanisme est en marche. Beaucoup, ils ont appelé pour l'histoire de, pour la participation des élections présidentielles en Guinée, pour la participation de M. Cyril Dalin. Et ils ne sont pas guinéens, beaucoup ils ne sont pas guinéens, mais ils ont quand même participé. Et vraiment, ça fait plaisir. Alors, je vais dire à ceux qui ne connaissent pas la Guinée, M. Cyril Dalin était ministre le temps de, après la mort de Sékou Touré. Le président qui a remplacé Sékou Touré, c'est M. Lansana Conté, c'est un militaire. Cyril Dalin a presque, il a été ministre pendant 11 ans, ministre des Transports, et beaucoup de postes il a occupé. Alors, pour dire encore que M. Cyril Dalin, il n'est pas un inconnu en Guinée, et quand Sékou Touré est mort, la Guinée avait plusieurs usines. Il avait des avions, la Guinée avait beaucoup d'avions, le train, le rail. M. Cyril Dalin, qui était ministre des Transports, aujourd'hui, la Guinée n'a plus d'avions, il n'a plus de rail.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDA. Le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo, RCK, l'opposant Diallo, qui est opposé à Alpha Condé, il a signé ou bien il s'est porté candidat pour les élections présidentielles qui vont se passer au mois d'octobre en Guinée-Conakry. C'est bien beau parce que la politique des chaises vides, ça ne paye pas. Mais nous croyons, comme Alpha Condé, c'est lui qui organise les élections, soyons sûrs et certains, ça ne sera pas transparent, mais nous croyons qu'il va gagner. Mais nous demandons au peuple guinéen de mettre encore la pression vraiment que Alpha Condé organise les élections, mais qu'il ne triche pas.
Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors j'habite en France donc. Et qu'en ce moment, ce n'est pas quelque chose dans mon pays au Togo qui me révolte. 4e mandat pour Foy Ignan Singbé. Et la France était. 4e mandat pour Foy Ignan Singbé qui l'a bien volé, avec des preuves falsifiées, avec des résultats électoraux falsifiés, imprimés à redose. Et personne ne dit rien. Les États-Unis lui demandent de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qu'il est incapable de faire, puisque, vous savez, quand on a triché, on ne sait pas où trouver les preuves. La France dit, j'ai donné des recommandations pour que l'élection présidentielle soit crédible. Comme le gouvernement n'a pas respecté, il n'a aucun mot à dire. Non mais, il se fout de qui, là?
Bonjour Stéphanie. Bonjour de l'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Moi, je voudrais lancer un appel au gouvernement congolais du Congo-Brazzaville, dans mon pays. Le coronavirus, jusqu'aujourd'hui, dans ce monde, aucun pays n'a sa maîtrise. Même dans les pays développés, comme ici en France et ailleurs, ils n'arrivent pas. Il y a un déficit de communication, on dit ceci, après on dit cela, demain, donc on ne comprend plus rien. Donc les populations ont compris que non, maintenant il faut faire face à ça avec ses propres manières. Donc moi je dirais au gouvernement congolais de ne pas mettre la pression, genre emprisonner les Congolais mentalement. C'est-à-dire le couvre-feu qui ne font que être prolongé, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de solution. De toute façon, il n'y a pas assez de cas de Covid vraiment en vrai dans mon pays. Là, je l'affirme. Parce que il ne faut pas que ce soit une situation qui va profiter au gouvernement pour qu'on puisse leur donner de l'argent et avec les fonds en question, en disant c'est là où ils les mettent dans leur poche. Donc, le couvre-feu, c'est trop tôt. Je regarde des reportages sur Télé-Congo et même sur les réseaux sociaux. Les Congolais se plaignent. Ils ont raison.
Vous savez, nous sommes très très nombreux à être d'accord avec l'opposition de Guinée, l'opposition de la Côte d'Ivoire et aussi avec le peuple malien. Nous sommes très nombreux à être d'accord avec le choix du peuple malien. Vous savez, lorsqu'un peuple se résout à applaudir un coup d'État militaire, c'est que ce peuple est désespéré et qu'il en a trop subi et qu'il en a marre de tout ce qu'il subit depuis très longtemps. Mais ça, malheureusement, nos dirigeants de la CEDEAO ne l'ont toujours pas compris. Ils auraient pu comprendre quand l'ancien gouvernement malien avait déployé des forces spéciales face à des militants civils. Ils auraient pu comprendre la cupidité de ces gouvernements qui ont été balayés. La CEDEAO, si la CEDEAO était là pour les peuples, la CEDEAO aurait pu accuser l'ancien gouvernement malien de cupidité, de très grande cupidité.
J'appelle aujourd'hui, comme on est en train de constater, il y a très très de pression sur les jantes militaires au Mali. Il y a des pressions des M5, les profiteurs. Et il y a des pressions de la CEDEAO aussi. Mais quel qu'en soit le problème, ce que les Maliens veulent, on veut seulement que la transition, cette fois-ci, que ça soit une transition réelle pour les Maliens. Que l'élection présidentielle ne soit pas comme l'élection de 1991 qui a été triquée et qui a été manipulée et fabriquée. Le résultat a été donné à Alpha Omar Konaré illégalement car il n'a pas gagné. C'est ancien premier ministre Zoumana Sako et Amadou Toumani Touré. C'est eux qui ont tout fait pour donner le pouvoir gratuitement à Alpha Omar Konaré. C'est ça qui a poussé le Mali aujourd'hui dans ce trou-là.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos réactions sur l'ultimatum de la CEDEAO au Mali. La CEDEAO maintient la pression et ses sanctions sur le Mali. Elle exige qu'un Premier ministre et qu'un président, surtout issu de la société civile, soit nommé sous 8 jours. Alors, que pensez-vous de ce délai? Vous semble-t-il raisonnable? 33-1 55 07 58 00 pour vous exprimer sur le sujet. Direction tout de suite New York aux États-Unis, retrouver Lamarane. Lamarane, bonjour. Ah, pardon.
À vous et...
Allez-y, bonjour, j'avais pas ouvert la tranche.
Oui, bonjour à vos fidèles auditeurs.
Merci. Bienvenue Lamarane. Dans le journal des auditeurs. Alors, que pensez-vous de cet ultimatum de 8 jours donné par la CEDEAO?
Je pense que l'ultimatum est un non-événement et aussi une provocation à l'endroit du peuple malien qui a tellement souffert et qui s'est débarrassé du régime civil. Si aujourd'hui les Maliens ont acclamé la junte au pouvoir, cela veut dire que la junte constitue le dernier espoir du peuple malien. J'estime bien que la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO parlent à leur propre nom, ils n'écoutent pas les communautés, les peuples de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, ces présidents ont l'obligation d'assister la junte, écouter la volonté des peuples, des populations maliennes pour que cela soit vraiment une transition bien réussie. Mmh. Donc, la junte, tout ce que je vais conseiller à la junte, c'est de rester à l'écoute de la population malienne et d'éviter les fissures. Il faudrait que, hier, on a vu qu'il y a eu certaines populations du Mali qui sont sorties pour exiger à ce que la transition soit dirigée par les militaires.
Tout à fait.
Que ce soit les militaires ou les civils, je pense que les civils sont beaucoup plus manipulables par rapport aux militaires. Et c'est la junte est essentiellement constituée par des jeunes militaires qui n'ont, je pense bien, même s'ils ont des ambitions politiques, ils auront le temps de revenir sur la scène politique et montrer ce dont ils ont peuvent faire pour la population malienne. Donc, il faut absolument, j'invite les riverains des frontières à faciliter afin que les transactions entre le Mali et les pays voisins soient effectives.
Continuez. Hein, on entend bien la marane que vous appelez hein, finalement, hein, les voisins à laisser ouvert hein, leurs frontières. Alors, il y a eu des reportages hein, sur plusieurs médias hein, qui montrait d'ailleurs hein, que parfois, hein, certaines frontières, hein, les marchandises hein, continuaient à rentrer et à sortir. Merci beaucoup, Lamarane, pour votre introduction. On a bien compris, j'ai retenu aussi ce que vous avez dit, hein, que selon vous, les militaires étaient moins influençables hein, que les civils. 33 1 55 07 58 00. On va écouter Koulou dans quelques instants, peut-être ce message avant de Karim depuis Ouagadougou, je pense, sur Facebook, qui nous dit la CEDEAO doit être une CEDEAO pour les peuples et non pour les chefs d'État. La population et les militaires maliens souffraient depuis des années, ils étaient où ? Pour moi, la CEDEAO devrait changer de stratégie pour que la paix revienne au Mali. Koulou, bonjour.
Allô ?
Bonjour Koulou, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Bonjour Stéphanie.
Comment comprenez-vous cette intransigeance de la CEDEAO ?
Oui, la décision de la CEDEAO renvoie à la légitimité. Alors, est-ce que Stéphanie, pour un pays souverain, une organisation externe est-elle légitime à imposer une décision en lieu et place du peuple souverain ? Ça, c'est la question que je te pose.
Alors, je vous répondrai, mon cher Koulou, de toutes ces unions que finalement le Mali est signataire hein, des actes fondateurs de la CEDEAO. Donc, voilà.
Oui, alors, par rapport justement au texte qui régit les rapports entre la CEDEAO et ses membres, quelle que soit la décision que la CEDEAO doit prendre, elle doit être le reflet de la réunion de l'Assemblée des chefs d'État. Ce qui ne fut pas le cas parce que c'est seule la commission de la CEDEAO qui a pris cette décision.
Sur les sanctions ?
Absolument.
Sauf que hier, c'était le sommet des chefs d'État, hein, la conférence hein, justement des chefs d'État qui a confirmé ces sanctions et les a actées. Hein.
Oui, mais les sanctions étaient. Ils n'ont fait que revenir sur les sanctions déjà prises, elles ne datent pas d'hier.
Oui, oui.
Elles ont été prises au départ par une commission, ce qui les rend tout à fait illégales d'un point de vue justement de la loi. Un second élément, c'est que ce qu'on voit jusqu'à maintenant, la CEDEAO n'est pas une organisation politique, c'est une organisation économique. Donc sa nature fait qu'elle n'a pas fonction à imposer, à décider en lieu et place des peuples. Seul le peuple des différents États, notamment le peuple malien, peut prendre une décision concernant le règlement de ses problèmes internes. La CEDEAO sait très bien, Lamarane le disait tout à l'heure, les souffrances du peuple malien, ils étaient où ces chefs d'État ? Tout semble laisser croire que la CEDEAO est devenue tout simplement, comme disent souvent les gens, un syndicat des chefs d'État. Quand ils viennent au Mali pour demander à la junte de remettre en place Ibeka, ça montre que les difficultés des peuples ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est la défense des membres de leur syndicat.
Si j'ai bien compris, Koulou, vous avez plus ou moins répondu à ma question en disant finalement, cette intransigeance des chefs d'État hein, de la sous-région les renvoie à leur propre situation. Et j'ai bien compris aussi, Koulou, hein, que vous, finalement... délégitimer le droit, vous enlever le droit de la CEDEAO à se mêler des affaires du Mali. Merci beaucoup, Koulou. Alors, 33 1 55 07 58 00, on va demander d'aller vite, hein, vous êtes nombreux à vouloir intervenir. On écoute Richard depuis Ouagadougou. Richard, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann.
Bonjour Richard Zango, bienvenue. Pour vous, hein, vous êtes du même avis que l'auditeur précédent, hein, si j'ai bien compris, Richard.
Oui, je suis du même avis avec l'auditeur précédent, parce que la CEDEAO, ce sont des propos futiles. C'est des propos qui ne servent pas, et c'est tout le temps des sommets extraordinaires, des sommets et ordinaire pour vraiment résoudre les conflits en Afrique. Mais jusqu'à présent, aucun de ces sommets de chefs d'État n'a abouti à régler un conflit en Afrique. Parce que où était-elle lorsque le président Ibeka prenait des décisions à l'encontre du peuple malien? Et maintenant, le peuple malien s'est révolté et a renversé Ibeka pour vraiment apaiser la souffrance que ce peuple-là subissait. Et maintenant, la CEDEAO, ils viennent là, ils s'asseyent, ils disent qu'ils font un sommet extraordinaire pour régler le conflit.
Cependant, au-delà des propos futiles, mon cher Richard, il y a quand même des sanctions qui, elles, sont bel et bien réelles. Alors, je disais, sont plus ou moins appliquées, puisqu'apparemment, quelques fournitures, marchandises, circulent notamment en provenance du Sénégal. Est-ce que vous ne craignez pas, finalement, aussi que ces sanctions, quand même, pèsent sur le quotidien des Maliens? On parle du risque d'augmentation, notamment des prix, des denrées.
Certes qu'il y a bel et bien eu des sanctions contre le Mali, mais ces sanctions, est-ce que c'est à la jeune que ces sanctions sont-elles adressées? C'est au peuple malien. Il ne faut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre du peuple. C'est le peuple, pauvre peuple, qui est en train de subir toutes ces conséquences, et non la jeune. C'est le pauvre peuple qui est en train de souffrir. Où est-elle? Lorsque les présidents africains tentent à briser un troisième mandat, c'est par là qu'il faut commencer à dire à ces chefs d'État, non, pas de troisième mandat pour la stabilité d'un pays. Il ne faut pas avoir un troisième mandat. Je suis d'avis et je salue, j'applaudis vraiment la décision courageuse du président nigérian, Mamadou Buhari. Que dit-elle, cette soi-disant CEDEAO, du problème de la Côte d'Ivoire.
De ce qu'on a appelé parfois des coups d'État.
Ces derniers jours.
Constitutionnels.
C'est à partir de là que la CEDEAO doit prendre des décisions pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore à nouveau dans le chaos. Mais elle ne fait rien pour empêcher tout cela.
On comprend bien. Pardon, Richard, je suis désolé, je vous ai un peu interrompu, mais je suis obligé. Mais on a bien compris, et c'est ce que dénonçaient beaucoup d'auditeurs depuis le début de l'émission. Vous êtes nombreux à penser comme cela, que finalement, avec ce deux poids, deux mesures, la CEDEAO se discréditait. On rappelle que l'un des principes aussi de la CEDEAO, qui, malgré tout, se veut quand même une organisation politique, l'un des principes de la CEDEAO est la limitation du nombre de mandats à deux. Et on le rappelle aussi que la CEDEAO, normalement, interdit toute modification, réécriture de la Constitution 6 mois avant le scrutin, notamment présidentiel. C'est ce qui s'est passé en Guinée. Je demande à Thierno, justement, du côté de la Guinée, de patienter un petit peu. On va écouter, par ordre d'arrivée, Eric et Richard. Eric, bonjour.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est vous, Eric.
Oui, bonjour, madame.
Merci de votre patience.
Oui, madame, bonjour.
Bienvenue dans le JDA.
La patience est un art, madame. Bonjour. Je vais aller dans le sens de tous les auditeurs qui sont passés avant moi. Je voulais que vous, en tant qu'Africaine, que vous vous posiez la question, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, les peuples en Afrique francophone soient si miselés? Dites-moi, est-ce que quand vous récapitulez, vous ne voyez pas que ce sont que des peuples africains francophones qui ont ce problème, en fait? Et à partir de ce moment, il ne faut pas négliger la colère des peuples. La colère des peuples est quelque chose de réel. Et à partir de ce moment, il faut que tous ceux qui servent les États se rendent compte qu'ils ne sont que des petits serviteurs du peuple. Et que si le peuple décide quoi que ce soit, ils doivent se plier à leur volonté et c'est tout. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, il y a toujours des troubles qui sont liés à la veille des élections où il y a toujours l'armée française qui est dedans. Dites-moi, qu'est-ce que l'armée française déjà fout là-bas au Mali?
Au Mali, ah, l'opération Barkhane, on rappelle. Hein,
Oui, mais madame, dites-moi, est-ce que si la CEDEAO avait la même vigueur, la même force pour pouvoir lutter contre le terrorisme, vous pensez que nous en serions là aujourd'hui? Il faut que nous nous posions des bonnes questions. Que fait l'armée malienne, l'armée française au Mali, en Centrafrique? Et c'est tous les pays que je vais citer, c'est les pays où il y a toujours des troubles, en fait, madame. Il faut que vous vous rendiez compte que...
L'armée, après, est aussi au Tchad, par exemple, l'armée française, et sur nos nombreux, dans nos nombreux pays en Afrique, elle est aussi au Gabon, par exemple.
Oh, oui,
je crois qu'il y a même, elle est même au Sénégal.
Passé, une base au Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé en 2016 au Gabon. En 2016, il y a eu une élection qui s'est passée.
On entend bien, Eric, que vous faites le lien entre armée française et situation politique... un peu chaotique, notamment à la veille des élections. Bon, là, au Mali, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la même lecture. Hein. Mais effectivement aussi, hein, dans le mouvement de contestation, il y a des gens qui réclament le départ des troupes françaises. Merci beaucoup, Eric, de votre contribution. J'avais dit à Richard qu'on allait le prendre. Richard, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, madame Stéphanie.
La patience récompense, monsieur Richard. Bonjour, bienvenue.
Oui.
Voilà. Alors, revenons sur le Mali, précisément. Le M5 avait plutôt divisé sur la durée de la transition.
Bon, en fait, bon, la question de transition ou pas, s'il est à haut, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais mon problème de savoir est que nous devons nous poser des questions à savoir pourquoi est-ce que le peuple appuie le junte militaire. C'est ça la question qu'il faut se poser.
Vous demandez pourquoi, finalement, l'opinion malienne soutient les militaires, c'est ça, la question?
Oui, ouais. Pour quelle raison, effectivement? Alors, maintenant, la question, pour quelle raison? C'est parce que le lendemain n'est pas incertain avec ces gens-là. Mais moi, je pense qu'il y a ici un débat social à faire. Il y a un problème social, il y a des questions sociales à résoudre, à répondre. CEDEAO peut parler, on peut parler de IBK, on peut parler de tout le monde, mais est-ce que le Malien se retrouve? Que veut le peuple? C'est ça la question. Que veut le peuple? Mais si on arrive à répondre à ces questions sociales, ben je pense que la paix régnera au Mali, comme partout ailleurs. Parce que le but de la politique, c'est de garantir la paix sociale.
Et parmi ces questions sociales, Richard, il y a quand même la lutte contre la corruption. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu de très près l'actualité au Mali. Le CNSP a demandé à de nombreux ministres de rendre les véhicules qui étaient fournis par l'État. Alors, certains disposaient de cinq belles voitures.
Mais ils ont été obligés de rendre. Ça fait partie des problèmes sociaux, parce que quand vous avez 5 voitures, et ça vaut combien ces 5 voitures? Un enseignant est payé combien? Une maman maraîchère est payée, gagne combien par mois? C'est ça la question aussi. L'équilibre dans la société n'existe plus entre les dirigeants et les dirigés. C'est ça la question à laquelle on doit répondre, et savoir qu'est-ce que nous voulons. Écoutez-nous au moins, c'est ce que le peuple veut. Parce que le peuple est capable
d'appuyer n'importe qui viendra. Comment expliquez-vous cette espèce d'autisme de la CEDEAO qui semble effectivement très coupée? Alors je ne dis pas que tous les Maliens souhaitent une transition dirigée par les civils, par les militaires, pardon. Cependant, on voit bien qu'une large part quand même soutiennent les militaires. Comment analysez-vous cet autisme de la CEDEAO?
Moi, je crois que la CEDEAO fait confusion entre l'État malien et IBK. IBK n'est pas l'État malien. IBK, c'est quelqu'un qui était représentant de l'État malien auprès de la CEDEAO. Ce qui veut dire que même si IBK n'est pas là, CEDEAO, avec l'Alliance soviétique des Maliens, doivent continuer. Parce que dire aux Maliens que nous allons mettre un OLA sur vous, ça veut dire que sans IBK, vous ne pouvez plus fonctionner. C'est injuste.
Bon. C'est très clair. Merci Richard de votre analyse. Excellente journée à vous. Richard qui mettait l'accent sur... Les problématiques sociales et finalement les revendications aussi de l'opinion malienne. Direction Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Alors bonjour Tierno, la ligne n'est pas très bonne, j'espère qu'on va bien vous entendre.
Oui, tout à fait. Moi je pense que l'ultimatum va forcément ridiculiser davantage les dirigeants de la CEDEAO, parce que nous avons constaté avec regret que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs de l'État, des chefs d'État, et non la CEDEAO des peuples, comme dit M. Mahmoud Diko. Vous savez, cette situation au Mali, c'est très compliqué. Je pense que l'heure n'est pas de faire des ultimatums fantaisistes. 8 jours, rien n'est possible dans 8 jours. Donc, Je pense qu'il fallait donner le temps au pourparler entre Maliens, parce que les gens au pouvoir ont clairement dit qu'ils vont associer tout le monde, même le parti de M. Ibrahim Boubacar Keïta a été consulté. Les séparatistes qui sont au nord, les signataires d'accord d'Alger, tout le monde était autour de la table. Pourquoi la CEDEAO se persécute? Mais je pense que les dirigeants de la CEDEAO jusqu'à présent, les dirigeants de la CEDEAO sont jusqu'à présent n'ont pas pu accepter la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Comme disait M. Choguel Maïga, la ligne rouge de la CEDEAO, c'est la ligne blanche du peuple malien. Les militaires ont achevé la lutte du peuple. C'est au peuple de veiller aussi aux militaires. Même Amdiko est là, il a bien dit, il est retourné dans la mosquée, mais la mosquée se trouve toujours au Mali. Et là, les militaires qui sont là, le peuple est
là. C'est très clair, Tierno. Alors, Tierno, la ligue se dégrade un peu, ça tombe bien, on arrive à la fin de cette émission, hein, mais on a bien compris que vous avez dit, hein, les chefs d'État de la CEDEAO vont encore se ridiculiser avec cette menace. Alors, c'est la fin de cette émission, merci à tous de votre participation. Si vous n'avez pas pu intervenir, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 05. Je le diffuserai demain en début d'émission. Demain, justement, dans le journal des auditeurs, je vous propose de parler de la Centrafrique. En Centrafrique, l'ancien président Djotodia est revenu il y a quelques jours. Un autre ancien président, François Bozizé, sera lui candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'en pensez-vous ? On en parle demain dans le journal des auditeurs. En attendant, prenez soin de vous. À demain.